François Tremblay, c'est Bonjour Montmagny.
Septembre, ici Stephen Zerbinski. Voici les nouvelles. Eh bien, plus de 50% des centres de la petite enfance, les CPE de la province, étaient en déficit l'an dernier, c'est selon Radio-Canada. Il s'agit d'une situation sans précédent pour les services de garde au Québec. Seulement ces trois dernières années, le nombre de CPE ayant trop de dépenses pour équilibrer leur budget a augmenté de 29 à 52%. Parmi les explications de cette hausse, on signale les factures plus élevées de fournisseurs, de services, d'entretien et d'assurance, ainsi que la pénurie de personnel qui engendre des remplacements via des agences et des heures supplémentaires à payer. Québec demande ce mois-ci au CPE de déclarer les sommes payées en main-d'œuvre indépendante pour avoir un portrait clair de la situation et corriger le tir. Eh bien, l'Institut national de santé publique du Québec est préoccupé par la hausse de cas de gonorrhée et de syphilis partout au Québec. Dans un portrait publié hier, on souligne une importante hausse de cas d'infections transmissibles sexuellement et par le sang enregistrée en 2022 après une accalmie lors de la pandémie de COVID-19. Ce sont 200 femmes infectées à la syphilis qui ont été recensées il y a 2 ans, ce qui est 7 fois plus élevé qu'il y a 10 ans. À Ottawa, les néo-démocrates déchirent leur entente qui assurait au gouvernement libéral minoritaire de Justin Trudeau de rester au pouvoir jusqu'en juin 2025. Le chef du NPD, John Mainsing, en a fait l'annonce dans une vidéo sur les réseaux sociaux où il se montre prêt à aller en élection. Le gouvernement Trudeau devra maintenant négocier au cas par cas avec les partis d'opposition pour s'assurer de survivre au vote de confiance et faire adopter ses projets de loi. Pour le leader parlementaire du Bloc québécois, Alain Terrien, cela donne aux bloquistes de nouveaux outils de persuasion.
C'est une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre enfin pour le Bloc. On en a fait des gains, mais là, c'est encore plus facile d'en faire dans un contexte de gouvernement minoritaire. On va se relever les manches et travailler très fort pour accumuler les gains.
À Québec, le départ de Pierre Fitzgibbon force François Legault, bien sûr, à apporter des ajustements à son conseil des ministres. Notre bureau parlementaire a d'ailleurs appris que Jean-François Roberge sera nommé à l'immigration. Louis Lacroix.
François Legault est clair. Malgré le départ de son influent ministre, il n'est pas question de remaniement ministériel.
Je vais faire un ajustement, pas un remaniement.
Ainsi, les responsabilités de l'économie et de l'énergie devront être assumées par un autre ministre. Le titulaire des Finances, Éric Girard, passe son tour.
C'est une charge de travail qui serait beaucoup trop élevée. Alors, je pense pas que c'est ça le plan.
Cogeco Nouvelle a appris que c'est Christine Fréchette qui sera nommée responsable de l'économie et qui défendra le projet de loi 69 sur les ressources énergétiques pour la remplacer à l'immigration. François Legault fera appel à Jean-François Roberge, ministre responsable des relations avec le fédéral. Un dossier prioritaire aux yeux du premier ministre.
À convaincre Justin Trudeau d'enfin réduire l'immigration.
Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles, Rimouski.
L'auteur présumé d'une fusillade mortelle survenue hier dans une école secondaire aux États-Unis est un jeune qui fréquentait l'établissement scolaire en question. Le bilan de la fusillade s'élève à 4 morts, soit 2 étudiants et 2 professeurs, ainsi que 9 blessés. Le suspect est âgé d'à peine 14 ans. Et enfin, au sport, la place Bell sera l'hôte de 6 matchs locaux de l'équipe de l'école des Nets de Brooklyn de la NBA. Les Nets de Long Island de la G League viendront disputer ces 6 matchs en sol lavallois, avis aux intéressés, du mois de janvier au mois de mars prochain. Ce sera donc à surveiller. Vous écoutez Cogeco Nouvelles. De bonnes nouvelles.
Sont disponibles chez Audi Populaire. Profitez des rabais gouvernementaux pour obtenir jusqu'à 12 000 $ de remise. Audi Populaire, 5445 Saint-Hubert, Montréal.
Salut Jonathan.
Salut Patrick.
Donc hier, on avait beaucoup de drama avec la démission de Pierre Fitzgibbon. Hier, dans la journée, ça nous a donné un sujet de chronique pour toi aujourd'hui. On a du drama qui nous vient d'Ottawa, le NPD qui a déchiré son entente avec le Parti libéral du Canada. Est-ce qu'on va avoir des élections cet automne?
Écoute, je viens dans un instant, mais c'est sûr que c'est un coup de théâtre, là, ce qui s'est passé hier du côté d'Ottawa. Ça amène beaucoup d'instabilité, mais à ta question, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir des élections cet automne? Je vais y revenir, mais je veux juste qu'on parle un peu du contexte, du pourquoi c'est arrivé et pourquoi c'est arrivé hier. Assurément, ce qui semble assez clair, c'est que du côté du NPD, on avait l'impression de ne pas bénéficier des gains acquis. On pense au programme de soins dentaires, assurance médicaments, c'est pas encore fait, c'est au Sénat, mais ça a cheminé des milliards de dollars pour le logement autochtone. Selon la presse, c'est Mylène Krentz ce matin qui répertorie que sur les 24 éléments qu'il y avait dans l'entente, il y en a 15 qui ont été réalisés, 5 qui sont en cours. On s'entend que c'est quand même un bon bilan, sauf que dans les sondages, le NPD n'était pas capable d'aller récolter les fruits de ces gains-là. Écoute, je regardais mars 2022, dans les sondages, ils étaient grosso modo autour de 20 %. Ils sont à 17-18 %. Donc, non seulement ils n'ont pas fait de gains, mais ils ont même perdu des plumes. Et là, tu ajoutes à ça le fait que les députés du NPD, les militants du NPD, étaient tannés d'être perçus comme des valets de Justin Trudeau. Non seulement des valets de Justin Trudeau, mais avec l'impression que Justin Trudeau était aussi devenu un boulet quand tu regardes son impopularité. Donc, il voulait déchirer le contrat. Et là, tu ajoutes à ça la pression de Pierre Poilievre, le sell-out signe, la campagne des derniers jours. Donc, ça peut se comprendre qu'il se disait, on va se détacher de ça, mais je trouve que le prétexte utilisé, le message, est un peu hypocrite. Parce que là, soudainement, Jagmeet Singh parle du PLC comme le parti des ultra-riches, des grandes entreprises qui n'aident jamais les vraies personnes. Hey, ça a fait la job pendant 2 ans et demi. C'est un gouvernement ultra-dépensier. Et là, soudainement, puis je sais que tu parlais de la grève des chemins de fer qui n'ont pas aimé, bon, le recours à
l'arbitrage
exécutoire. Ouais, le lock-out. Mais ça peut pas être juste ça. Il y a un mobile qui est très stratégique et non pas juste, hey, on s'est rendu compte que ce parti-là était pas comme nous.
C'est sûr que il y a quelque chose de stratégique là-dedans. Ça commence à leur nuire. Il y a des partiels qui s'en viennent dans 2 semaines, Jonathan. Mais l'autre affaire, juste allons-y sur ce que M. Singh a dit. L'arbitrage exécutoire imposé aux deux partis dans le lock-out du rail, ben, nous, on voit ça comme le Parti libéral du Canada qui est du côté des PDG. Mmh. T'sais, le vieux discours de il y a d'un côté le peuple puis de l'autre côté les PDG, les élites, etc. J'ai posé la question tantôt dans mon tour d'horizon de l'actualité. Oui. Les millions de personnes qui auraient peut-être eu des impacts, des pertes d'heures, travailler, des pertes d'emploi, des mises à pied temporaires, si le conflit dans le rail s'était étiré, le NPD, il en pense quoi? Le NPD n'est pas pour ces gens-là?
C'est pour ça que le NPD, on ne l'a pas entendu hier, en tout cas dans la vidéo, puis on va entendre Jagmeet Singh en point de presse à 11h15. Ça aussi, c'est particulier, hein, d'avoir causé une telle commotion sur Twitter, puis ensuite, on va répondre aux questions le lendemain, mais c'est pas une brisure idéologique qui s'est produite, là. C'est un timing stratégique. C'est carrément ça. Et je vais même aller plus loin. Je sais que des fois qu'on parle de stratégie politique, ça peut rendre un peu les gens cyniques, mais j'aime ça essayer d'expliquer aux gens comment ça peut se passer en arrière. Puis moi, je trouve ça intéressant de comprendre. Parce qu'hier, je parlais avec des vieux stratèges à Ottawa qui sont encore actifs. Puis on me faisait réaliser que le timing de faire ça hier, mercredi, pour le NPD, plutôt que d'attendre à la semaine prochaine, parce que tu sais, la semaine prochaine, ça va être les caucus précessionnels des quatre partis. Tu veux contrôler l'agenda. Fait qu'imagine, Jagmeet Singh, avec l'ensemble de ses députés, fait une conférence de presse dans le cadre du caucus précessionnel, et là, annonce qu'il déchire l'entente avec ses troupes derrière lui. Bang, tu contrôles l'agenda, tu prends toute la place. Donc, pourquoi ne pas avoir attendu à la semaine prochaine? Mais c'est pas compliqué. Tu as fait référence aux deux partiels qui s'en viennent, OK? 16 septembre. La salle est mort Verdun. Chez nous, ça va faire jaser. L'NPD qui aimerait ça, aller ravir le comté aux libéraux. Et l'autre comté, c'est Elmwood, Transcona, au Manitoba, Winnipeg. C'est un château fort du NPD, mais au coude à coude avec les conservateurs. Et ils veulent le garder. Or, l'élection est le 16 septembre. Bien, qu'est-ce qui débute demain, samedi, dimanche et lundi? Mmh. C'est le vote par anticipation.
Ah! On est déjà dans la période de vote, bien sûr.
Donc, là, le NPD peut dire quand il va faire ses appels pour faire sortir le vote, parce que surtout en élection partielle, c'est tellement important d'essayer d'aller faire voter tout de suite les gens par anticipation. Bien, là, ils vont pouvoir prendre le téléphone au cours des prochains jours et dire oui, regardez les critiques que vous nous avez faites, là, on vous a entendu, là. On s'est éloigné des libéraux, puis s'il faut, on va aller en élection. Mais dans les faits, ce qu'on me dit, c'est qu'à l'interne, ce que le NPD a fait circuler, c'est de dire écoutez, là, on capote pas, on va y aller au cas par cas. on ne cherchera pas à provoquer une élection. Donc, ça ne veut pas dire que les NPD, à la première occasion, va voter pour faire tomber le gouvernement. Mais est-ce que les conservateurs, eux, vont le faire? Là aussi, on va parler un petit peu de stratégie, OK? Parce que là, hier, déjà, Pierre Poilievre va dire on va faire tomber le gouvernement dès qu'on aura une occasion. Puis l'occasion risque de venir assez rapidement avec le retour en chambre et les journées de l'opposition. Mais gardons une chose en tête. Au mois d'octobre, il y a trois provinces qui sont en élection. La Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick, la Saskatchewan, les 19, 21, 28 octobre. Là-dessus, tu as deux provinces qui sont menées par des conservateurs. Donc, les forces de conservatrices vont vouloir s'unir pour travailler à la réélection de ces partis-là, mener un bon combat également du côté de la Colombie-Britannique. Donc, ce serait très, très, très surprenant que le Parti conservateur vienne diviser les forces, diviser le message et tout ça, alors qu'il y a une période d'élection qui s'en vient. Donc, la fenêtre, elle sera probablement pas avant le mois de novembre. Donc, encore là, aspect stratégique, les premiers votes de défiance, là, quand Pierre Poilievre va dire là, voici, on dépose une motion, ça va être plus une activité de communication. Par exemple, on défait le gouvernement à cause de la taxe sur le carbone. On défait le gouvernement à cause de la crise des opioïdes. Donc, des motifs pour lesquels les conservateurs savent que le NPD, le Bloc, les appuieront pas en disant ben non, on défera pas le gouvernement pour ça. Mais eux pourront continuer à dire, regardez, nous, on a essayé de les défaire. Les autres continuent à garder le gouvernement en vie. Mais ça fera leur affaire de ne pas y aller tout de suite dans l'immédiat avant les prochains mois.
Et M. Poilievre pourra continuer à parler du Bloc libéral, comme il le fait à propos voilà, du Bloc québécois. Qu'est-ce que tu as pensé de la conférence de presse de M. Fitzgibbon hier avec son ancien patron maintenant, M. Legault?
Écoute, si je me mets d'un point de vue, mettons, si j'étais un stratège caquiste, t'es satisfait de comment ça a été. Ça a bien été, c'est-à-dire que tu ressens pas de là avec de grandes controverses. Bon, un message qui était assez similaire de part et d'autre, mais il reste que des questions qui demeurent en suspens, là. T'sais, l'impression de certains non-dits, les relations qu'Hydro-Québec, les tensions qu'il pouvait peut-être y avoir entre le premier ministre et M. Fitzgibbon. Les contradictions aussi, je trouve que mes collègues des médias ont fait un bon travail là-dessus de dire, mais M. Fitzgibbon, vous nous dites que c'est la job la plus stimulante que vous avez jamais faite de votre vie, mais que vous n'avez plus la motivation de la faire. Est-ce que c'est conciliable, ces deux positions-là? Écoute, moi, j'en suis à accepter aussi qu'on n'aura pas peut-être les réponses à toutes les questions, mais aussi qu'une personne a le droit d'être tannée. Parce que je trouve que le jugement est très sévère envers un politicien comme Pierre Fitzgibbon qui, passé 60 ans, indépendant de fortune, qui pouvait faire d'autres choses, a décidé d'aller en politique, a fait 6 ans, en passant en politique, une année en politique, particulièrement quand tu es ministre, là, moi je l'ai vécu comme staff, une année c'est l'équivalent de 3-4 ans dans le privé, tellement que ça va vite, tellement que c'est intense. Donc, est-ce qu'il aurait dû finir son mandat? Probablement, à un moment donné aussi, on doit accepter que peut-être qu'il voulait juste plus continuer. Et pour le gouvernement, la réalité, là, c'est que le défi, ça va être de faire oublier Pierre Fitzgibbon le plus rapidement possible. Et ça va commencer cet après-midi avec la nomination de Christine Fréchette comme super ministre de l'économie et de l'énergie. Je pense qu'elle pourrait hériter aussi de la métropole, mais c'est pas confirmé. Mais je te l'avais dit dès hier matin que j'avais des sources qui me disaient « ça va être elle, ce n'est pas qu'une rumeur, ce sera elle, ça va être confirmé ». Tout semble indiquer que c'est Jean-François Roberge qui va récupérer l'immigration. Mais Christine Fréchette, puis on aura l'occasion de s'en parler après avoir eu notre première impression, hein, de la nouvelle ministre de l'Énergie et de l'Économie, devra laisser sa marque rapidement. Et le projet de loi, bien que ce soit controversé, qui vont quand même aller de l'avant, je pense que pour elle, ça va être une occasion de démontrer qu'elle aura un talent de communicatrice, de vulgarisatrice, peut-être de rassembleuse aussi autour d'un sujet qui est très sensible, qui peut être divisif.
Et pendant ce temps-là, en terminant, ben, le Parti québécois, lui, est de terre bonne humeur.
Ils sont de Terrebonne.
Il fallait que je la place.
Oui, ils seront du côté de Terrebonne. Écoute, c'est très habile. Puis évidemment, je sais, puis déjà, il y a des gens qui me disaient ça hier, puis c'est une évidence. C'est pas mal plus facile pour le Parti québécois et ses 4 élus qu'un caucus de 80 cas qui est là, ou même de 20 élus, dire, écoutez, on est à Rouyn-Noranda, on est supposé d'être là jeudi aussi, mais on change le programme, on change l'itinéraire dans le GPS, puis on s'en va direct à Terrebonne.
Tout le monde peut rentrer dans l'auto de Pascal Bérubé.
Mais ils sont en autobus quand même.
Ah, okay.
Ils ont du staff et tout ça. Mais donc, dès 16h, point de presse du côté de Terrebonne. Et si ça vous intéresse, Jean de Terrebonne, un petit 5 à 7 du côté du pub Saint-Patrick à Terrebonne. Écoute, ils veulent marquer le coup. Le Parti québécois est à la recherche de son Louis Hébert. Tu sais, La victoire dans Jean Talon, elle a été très importante, sauf que moi, je pense qu'ils sont à la recherche de leur Louis Hébert. Louis Hébert, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est la victoire en octobre 2017 de la CAQ avec Geneviève Guilbeault dans une partielle. Et ça a été la rampe de lancement de l'élection à venir en 2018. Donc, je pense qu'il y aura un momentum très intéressant pour le PQ qui est bien positionné. Hâte de voir qui vont présenter.
Oui, ils veulent une femme comme candidate, par ailleurs.
Oui, et on a dit, je l'ai dit hier, on ne disait pas de transfuge bloquiste.